Bouvard et Pécuchet, qui est le dernier roman de Flaubert, le roman inachevé que Flaubert n'a pas pu finir puisqu'il est mort alors qu'il en avait écrit, pensait-il, les deux tiers ou en tout cas 10 chapitres sur 12. Je parlerai de cet inachèvement tout à l'heure. Il y a de fait, il reste un grand dossier de notes pour la, ce qu'il appelait la seconde partie de Bouvard et Pécuchet, pour ce qu'il appelait la copie de Mes deux bons hommes. Le roman a été conçu très tôt. Dès 1850, Flaubert pense à écrire ce qu'il appelle le dictionnaire des idées reçues. Ce livre complètement fait, précédé d'une bonne préface, écrit-il à Louis Bouillet, où l'on indiquerait comme quoi l'ouvrage a été fait dans le but de rattacher le public à la tradition, à l'ordre, à la convention générale, et arranger, pense-t-il à ce dictionnaire des idées reçues en 1850, arranger de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non, ce serait peut-être une œuvre étrange et capable de réussir, car elle serait toute d'actualité. 1850, Flaubert n'est encore qu'un écrivain sans livre, hein, il n'a rien publié. Les nombreux écrits qu'il a déjà faits sont dans les tiroirs, et le dictionnaire des idées reçues est là, comme ce livre, à faire. De fait, Flaubert, toute sa vie, fera le dictionnaire des idées reçues, avec Bouillet, avec des amis, et ce dictionnaire qui existe, qui devait être une partie de la deuxième partie de Bouvard et Pécuchet plus tard, n'a jamais été publié du temps de Flaubert. En fait, l'idée du dictionnaire évolue, elle persiste toute sa vie, et ce n'est qu'en 1863, après avoir écrit Madame Bovary, puis Salammbô, au moment où il songe à écrire l'éducation sentimentale, que Flaubert pense à modifier, enfin pense à un nouveau projet qui serait Bouvard et Pécuchet. En 1863, l'idée est presque entière, ce qu'il appelle mon roman des deux cloportes. Et là, il dira les deux cloportes, les deux commis. Et finalement, il le laisse de côté, mais il y a un scénario de 1863 qui est quasiment complet sur l'idée de l'aventure encyclopédique de deux bons hommes qui seraient entre bêtes et intelligents, en tout cas qui décideraient de connaître et qui décideraient de traverser toutes les connaissances. Le projet est abandonné dès 1863 et Flaubert n'y revient vraiment qu'en 1872 à peu près, en contrepartie, dit-il, de la Tentation de Saint-Antoine. La Tentation de Saint-Antoine, qui est une encyclopédie des religions, à sa manière, l'histoire d'un saint qui est envahi pendant une nuit par toutes les religions du monde, de l'univers, jusqu'à une sorte d'extase finale devant la matière. Et parallèlement, en contrepartie, Flaubert pense donc retrouver ces deux cloportes, qu'il n'appelle plus à ce moment-là ces deux cloportes, mais il dit toujours mes deux bons hommes. Et il écrit le 18 août 1872 à Madame Roger Desgenettes, je vais commencer un livre qui va m'occuper pendant plusieurs années. Quand il sera fini, si les temps sont plus prospères, je le ferai paraître en même temps que Saint-Antoine. C'est l'histoire de ces deux bons hommes qui copient une espèce d'encyclopédie en farce. Vous devez en avoir une idée. Pour cela, il va me falloir étudier beaucoup de choses que j'ignore. La chimie, la médecine, l'agriculture. Je suis maintenant dans la médecine. Ces deux bons hommes qui copient une espèce d'encyclopédie en farce. Il y a donc déjà l'idée que le roman va être fait du parcours encyclopédique des deux bons hommes et que dans un deuxième temps, ils copieront cette encyclopédie, ils copieront les notes. Et c'est le tour particulier de Bouvard et Pécuchet, c'est en cela que c'est inachevé, c'est qu'on a un premier grand mouvement, comme une sorte d'odyssée, et Flaubert va vers un nombre de chapitres qui va vers 12, comme si c'était un cycle d'odyssée. Et en fait, après avoir traversé tous les savoirs, qui échouent constamment, des ruines successives, Flaubert fait revenir ces deux bons hommes à l'idée de recopier l'ensemble de ce qu'ils viennent de traverser, mais pour faire un nouveau livre, qui lui n'existe pas, puisqu'il n'a pas été achevé, qui aurait été l'échantillon de toutes les sottises trouvées dans les livres lus pour traverser les savoirs, traverser l'encyclopédie. On a donc un livre tout à fait étrange, qui mobilise les sciences de son époque dans une fiction fondée sur le désir de connaître, le désir d'appliquer, le désir de trouver la théorie juste, et qui est une sorte d'encyclopédie en farce, Flaubert a raison, encyclopédie du 19e siècle, au sens où elle ne traverse pas simplement les sciences, mais elle traverse également les sciences qu'on pourrait appeler appliquées, le magnétisme. Il y a un moment de la politique, un moment de l'amour, il y a également la philosophie, la religion, la pédagogie. Et c'est ce trajet que j'aimerais que nous suivions par quelques morceaux, par quelques exemples. Flaubert lit énormément pour ce texte, lettre de 1873, le 4 août. « Savez-vous combien j'ai avalé de volumes depuis le 20 septembre dernier ? 194, et dans tous j'ai relevé des notes, de plus j'ai écrit une comédie, etc. » Et Flaubert insistera constamment sur la lourdeur du travail. À Caroline, en 73, j'ai un joli mal de tête pour avoir trop pris de notes dans D'Arembert, j'ai fini Flammarion, j'ai expédié toutes les notes à prendre dans D'Arembert, et lu pas mal de Buffon, etc., etc. La lecture que fait Flaubert, les lectures, jusqu'à 1500 volumes, dit-il, 1500 volumes pour faire un volume, et un des savants de l'époque, M. Baudry, va lui reprocher de faire comme ça, de traiter des sciences qu'il ne connaît pas. Il s'indigne en disant, comment on lit 1500 volumes pour en écrire un, et on serait un Jean Foutre, mais là Flaubert s'indigne, il fait valoir la pratique qu'il a des différentes disciplines, des différentes sciences. Et de fait, il lit sur chaque discipline, sur chaque moment, tous les volumes utiles, mobilisables, qui sont de la période des deux bons hommes, des deux périodes de la fiction, qui tournent autour de 1840 jusqu'à 1860, 70, mais aussi des livres plus récents pour Flaubert. Il les lit pour piéger ses personnages, pour que les personnages puissent eux-mêmes lire les livres. D'ailleurs, on verra dans certains passages, les personnages lisent constamment les livres que Flaubert lit, mais Flaubert en lit d'autres, pour faire commettre des erreurs aux personnages qui sont eux-mêmes, elles-mêmes prévues dans les livres. On a donc vraiment une encyclopédie en farce, c'est ce tour qui devient étrange. Encyclopédie qui est en même temps un roman, et c'est ce que je voudrais souligner par les passages que je lis. D'abord la rencontre, nous sommes tout près d'ici, dans le voisinage, et c'est une sorte de scène expérimentale que Flaubert ouvre. Je lis. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer. Et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit, éblouissait. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi, et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Técuché ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. » « Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré, un pantalon à grands ponts, gigodé par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture. Et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnait quelque chose d'enfantin. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. On aurait dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure dessemblait tout en profil à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises dans des tuyaux de la stingue, manquaient de proportion avec la longueur du buste, et il avait une voix forte, caverneuse. Cette exclamation lui échappa, comme on serait bien à la campagne. Ce début est une épure, presque une rencontre comme cela de hasard. L'avenir de ce début, c'est dans Samuel Beckett, beaucoup plus tard, Mercier et Camier, par exemple. C'est-à-dire un début qui est la rencontre absolue, neutre, dans un réalisme certain, Boulevard Bourdon, le paysage, le lieu, mais en même temps, Flaubert met en place ici une différenciation des deux bons hommes qui sont pourtant dès l'instant mariés, on pourrait dire. Nous avons eu la même idée, c'est comme moi, je suis employé. Le couple ici devient vraiment un couple posé pour l'éternité dans les grands couples de la littérature. Don Quichotte et Sancho Panza en est un autre, mais celui-ci va pouvoir entrer dans une très rigoureuse différenciation et symétrie, et que Flaubert va reprendre sans cesse dans le roman. Sur chaque moment, sur chaque expérience, il y en a un qui aura une idée, l'autre une autre idée. Ça deviendra des petites oppositions, symétries, qui deviendront des conflits aussi, mais le mariage des deux personnages est noué. Les deux personnages se suivent, ne peuvent pas se quitter dès le premier jour, et vont multiplier ensemble les visites, les curiosités. Et je lis ce passage où ils découvrent ensemble le désir de connaître. Pour lui être agréable, Bouvard voulut faire à Pécuchet la connaissance de Barberoux. C'était un ancien commis voyageur, actuellement boursier, très bon enfant, patriote, ami des dames, et qui affectait le langage faubourien. Pécuchet le trouva déplaisant. Et il conduisit Bouvard chez Dumouchel. Cet auteur, car il avait publié une petite mnémotechnie, donnait des leçons de littérature dans un pensionnat de jeunes personnes, avait des opinions orthodoxes et la tenue sérieuse. Il ennuya Bouvard. Aucun des deux n'avait caché à l'autre son opinion, chacun a reconnu la justesse, leurs habitudes changèrent, et quittant leur pension bourgeoise, ils finirent par dîner ensemble tous les jours. Il faisait des réflexions sur les pièces de théâtre dont on parlait, sur le gouvernement, la cherté des vivres, les fraudes du commerce. De temps à autre, l'histoire du collier ou le procès de Fualdès revenait dans leur discours. Et puis, il cherchait les causes de la révolution. Il flânait le long des boutiques de bric-à-brac, ils visitèrent le conservatoire des arts et métiers, Saint-Denis, les Gobelins, les Invalides et toutes les collections publiques. Quand on demandait leur passeport, ils faisaient mine de l'avoir perdu, se donnant pour deux étrangers, deux Anglais. Dans les galeries du muséum, ils passèrent avec ébahissement devant les quadrupèdes empaillés, avec plaisir devant les papillons, avec indifférence devant les métaux. Les fossiles les firent rêver, la conchyliologie les ennuya, ils examinèrent les serres chaudes par les vitres et frémirent en songeant que tous ces feuillages distillaient des poisons. Ce qu'ils admirèrent du cèdre, c'est qu'on lui rapportait dans un chapeau. Ils s'efforcèrent au Louvre de s'enthousiasmer pour Raphaël. À la grande bibliothèque, ils auraient voulu connaître le nombre exact des volumes. Une fois, ils entrèrent au cours d'arabe du Collège de France, et le professeur fut étonné de voir ces deux inconnus qui tâchaient de prendre des notes. Grâce à Barberoux, ils pénétrèrent dans les coulisses d'un petit théâtre. Dumouchel leur procura des billets pour une séance de l'Académie. Ils s'informaient des découvertes, lisaient les prospectus, et par cette curiosité, leur intelligence se développa. Au fond d'un horizon plus lointain, chaque jour, ils apercevaient des choses à la fois confuses et merveilleuses. On entre là, avec ce couple, dans ce désir de savoir, ce désir de connaître, et le livre tout entier est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr on va le voir, des catastrophes permanentes dans le savoir, mais tout est animé par un désir de connaître que Flaubert ne se moque absolument pas. Ce désir de connaître est une vraie pulsion, un vrai désir, qui va être développé dans l'ensemble du livre. Et il y a comme une sorte de profonde nostalgie dans ce roman, justement sur le désir de savoir et sur le fait que les connaissances, que le savoir, que l'encyclopédisme est tout simplement impossible, est tout simplement inaccessible. Les deux hommes se lient de plus en plus, et coup de théâtre initial, un héritage que fait Bouvard, qui leur permet de réaliser ce rêve, aller à la campagne précisément. Ils deviennent donc des rentiers et décident de trouver le lieu, recherchent le lieu, et Flaubert, de ce point de vue, les avait placés dans un lieu précis qui est entre Rouen et Falaise. J'ai été à Dieppe, à Paris, à Saint-Gratien, dans la Brie et dans la Beauce pour découvrir un certain paysage que j'ai en tête. Et finalement, il trouve ce lieu, une plaine plate sur un plateau stupide. Et alors, le premier chapitre, qui est un long prologue, se termine par le déménagement. Et là, on trouve ce mélange curieux de beauté, d'angoisse et d'étrangeté. Je crois que ce qui règne dans Bouvard et Pécuchet, c'est l'étrangeté. Pécuchet part de son côté avec le déménagement, beaucoup d'aventures, le déménagement se perd, etc. Et Bouvard, lui, doit le rejoindre directement. À Falaise, le 9e jour de son voyage, Pécuchet prit un cheval de renfort. Et jusqu'au coucher du soleil, on marcha bien. Au-delà de Bretteville, ayant quitté la grande route, il s'engagea dans un chemin de traverse, croyant voir à chaque minute le pignon de Chavignolles. Cependant, les ornières s'effaçaient, elles disparurent, et ils se trouvèrent au milieu des champs labourés. La nuit tombait, que devenir? Enfin, Pécuchet abandonna le chariot et, pataugeant dans la boue, s'avança devant lui à la découverte. Quand il approchait des fermes, les chiens aboyaient. Il criait de toutes ses forces pour demander sa route. On ne répondait pas. Il avait peur et regagnait le large. Tout à coup, deux lanternes brillèrent. Il aperçut un cabriolet, s'élança pour le rejoindre. Bouvard était dedans. Mais où pouvait être la voiture du déménagement? Pendant une heure, ils la hélèrent dans les ténèbres. Enfin, elle se retrouva et ils arrivèrent à Chavignolles. Il y a un aspect onirique, extraordinaire, de le moment où l'expérience va commencer, cette expérience du savoir, de l'encyclopédisme, qui est en même temps envahie par le noir, la nuit, et dans ce roman, peu à peu, le noir va envahir. La nuit va gagner la totalité de cette avancée. Un grand feu de broussailles et de pommes de pin flambaient dans la salle. La résurrection, véritablement. Deux couverts y étaient mis. Les meubles arrivés sur la charrette encombraient le vestibule. Rien ne manquait. Ils s'attablèrent. Après ce moment d'angoisse, cette traversée de l'angoisse, véritable renaissance. On leur avait préparé une soupe à l'oignon, un poulet, du lard et des œufs durs. La vieille femme qui faisait la cuisine venait de temps à autre s'informer de leur goût. Ils répondaient « Oh, très bon, très bon !» Et le gros pain, difficile à couper, la crème, les noix, tout les délecta. Le carrelage avait des trous, les murs suintés. Cependant, ils promenaient autour d'eux un regard de satisfaction en mangeant sur la petite table où brûlait une chandelle. Leur figure était rougie par le grand air. Ils tendaient leur ventre, ils s'appuyaient sur le dossier de leur chaise qui en craquait, et ils se répétaient « Nous y voilà donc, quel bonheur, il me semble que c'est un rêve !» Bien qu'il fût minuit, Pécuchet eut l'idée de faire un tour dans le jardin. Bouvard ne s'y refusa pas. Ils prirent la chandelle et, l'abritant avec un vieux journal, se promenèrent le long des plates-bandes. Ils avaient plaisir à nommer tout haut les légumes. « Tiens, des carottes ! Ah, des choux !» Ensuite, ils inspectèrent les espaliers. Pécuchet tâcha de découvrir des bourgeons. Quelquefois, une araignée fuyait tout à coup sur le mur. Et les deux ombres de leur corps s'y dessinaient agrandies en répétant leurs gestes. Les pointes des herbes découtelées étaient rosées. La nuit était complètement noire et tout se tenait immobile dans un grand silence, une grande douceur. Au loin, un coq chanta. Leurs deux chambres avaient entre elles une petite porte que le papier de la tenture masquait. En la heurtant avec une commode, on venait d'en faire sauter les clous. Ils la trouvèrent béante. Ce fut une surprise. Déshabillés et dans leur lit, ils bavardèrent quelque temps puis s'endormirent. Bouvard sur le dos, la bouche ouverte, tête nue, Pécuchet sur le flanc droit, les genoux au ventre, affublé d'un bonnet de coton, et tous les deux ronflaient sous le clair de lune qui entrait par les fenêtres. Voilà, on est donc dans le lieu, on est installé, les deux personnages sont posés dans une vision qui les éternise, dans la splendeur de la nuit, cette fois, le clair de lune est apparu, alors qu'un paragraphe plus haut, la nuit était complètement noire, pour immobiliser ces deux personnages. Et il y a de très forts moments d'onirisme, de rêve ou de théâtralisation dans ce livre. L'aventure encyclopédique commence, mais de fait, ne commence pas par les livres. C'est-à-dire que Bouvard et Pécuchet ont dit « Foin des livres, nous n'avons pas besoin de bibliothèque ». Pourtant, ils en ont trouvé une en arrivant dans la maison, et elle leur servira, les livres viendront un peu plus tard. Commence par la ferme et le jardinage, les expérimentations se font sur le terrain, et on commence véritablement par la terre, précisément. La terre, les plantes, et Bouvard et Pécuchet essaient de gérer l'ensemble. Ils visitent une ferme modèle pour essayer eux-mêmes d'être agriculteurs. Bouvard s'occupant de la ferme et Pécuchet s'occupant du jardinage. Incessamment, ils parlaient de la sève et du cambium, du palissage, du cassage, de l'éborgnage. Ils avaient au milieu de leur salle à manger, dans un cadre, la liste de leurs élèves, avec un numéro qui se répétait dans le jardin sur un petit morceau de bois au pied de l'arbre. Levé dès l'aube, ils travaillaient jusqu'à la nuit, le porte-joint à la ceinture. Par les froides matinées de printemps, Bouvard gardait sa veste de tricot sous sa blouse, Pécuchet sa vieille redingote sous sa serpillière. Et les gens qui passaient le long de la claire-voie les entendaient tousser dans le brouillard. Quelquefois, Pécuchet de tirer de sa poche son manuel. Il en étudiait un paragraphe, debout, avec sa bêche auprès de lui, dans la pose du jardinier qui décorait le frontispice du livre. Cette ressemblance le flatta même beaucoup. Il en conçut plus d'estime pour l'auteur. Et ceci, ces petites visions, ces petites images qui sont multipliées d'un Bouvard et Pécuchet, en disent long sur, ici, le modèle, l'imitation. Bouvard et Pécuchet collent au livre, doivent imiter au plus près, et précisément ne savent pas faire le saut de l'application, ne savent pas faire le saut qui fait passer la théorie dans la pratique, ou qui pourrait innover. Et ce sont dans ces petites images qu'ils s'immobilisent. Le jardinage tourne très mal, les melons se mélangent, etc. Il y a une série de monstruosités qui apparaissent, et les deux personnages passent à tout autre chose. Tout étant perdu, les champs ne donnent pas, le jardinage ne donne pas non plus. Ils décident de passer au jardin paysager. Il décide donc de recevoir. Et je vais lire là un passage un peu plus long parce que le petit monde de Chanvignol pendant ce temps s'est constitué. C'est-à-dire que Bouvard et Pécuchet sont bien comme deux personnages qui expérimentaux, on pourrait dire, qui vont traverser l'encyclopédisme, mais Flaubert a projeté tout cela, tout ce savoir, toutes ces données de l'érudition, dans une fiction qui tourne de plus en plus autour des deux personnages. Comme tous les artistes, ils eurent le besoin d'être applaudis. Et Bouvard songea à offrir un grand dîner. Ils viennent d'achever leur beau jardin, jardin paysager, application d'ailleurs, d'un manuel célèbre de l'époque sur le jardin paysager. Et Bouvard songea à offrir un grand dîner. « Prends garde, dit Pécuchet, tu vas te lancer dans les réceptions, c'est un gouffre !» La chose pourtant fut décidée. Depuis qu'ils habitaient le pays, ils se tenaient à l'écart. Tout le monde, par désir de les connaître, accepta leur invitation, sauf le comte de Faverge, appelé dans la capitale pour affaires. Ils se rabattirent sur M. Hurel, son factotum. Belle-Jambe, l'aubergiste, ancien chef à Lisieux, devait cuisiner certains plats. Il fournissait un garçon. Germaine avait requis la fille de basse-cour. Marianne, la servante de Mme Bordin, viendrait aussi. Dès 4 heures, la grille était grande ouverte, et les deux propriétaires, pleins d'impatience, attendaient leurs convives. Hurel s'arrêta sous la haie trait pour remettre sa redingote, puis le curé s'avança revêtu d'une soutane neuve et un moment après M. Fourreau avec un gilet de velours. Le docteur donnait le bras à sa femme qui marchait péniblement en s'abritant sous son ombrelle. Un flot de rubans roses s'agita derrière eux. C'était le bonnet de Mme Bordin, habillée d'une belle robe de soie gorge de pigeon. J'ai une toute petite parenthèse ici, c'est que les personnages peu à peu ont de plus en plus de place et Mme Bordin va devenir personnage tout à fait intéressant et dont Bouvard tombera amoureux. La chaîne d'or de sa montre lui battait sur la poitrine et des bagues brillaient à ses deux mains couvertes de mitaines noires. Enfin parut le notaire, un panama sur la tête, un lorgnon dans l'œil, car l'officier ministériel n'étouffait pas en lui l'homme du monde. Le salon était ciré à ne pouvoir s'y tenir debout. Les 8 fauteuils d'Utrecht s'adossaient le long de la muraille, une table ronde dans le milieu supportait la cave à liqueur et on voyait au-dessus de la cheminée le portrait du père Bouvard. Les embûches reparaissant à contre-jour faisaient grimacer la bouche, coucher les yeux et un peu de moisissure aux pommettes s'ajoutait à l'illusion des favoris. Les invités lui trouvèrent une ressemblance avec son fils. Et Mme Bordin ajouta en regardant Bouvard qu'il avait dû être un fort bel homme. Et à chaque instant, les intrigues se nouent, et cette intrigue Bouvard et Bordin va filer comiquement dans tout le livre. Après 1 heure d'attente, Pécuchet annonça qu'on pouvait passer dans la salle. Les rideaux de calicot blanc à bordure rouge étaient, comme ceux du salon, complètement tirés devant les fenêtres, et le soleil, traversant la toile, jetait une lumière blonde sur le lambris qui avait pour tout ornement un baromètre. Bouvard plaça les deux dames auprès de lui, Pécuchet le maire à sa gauche, le curé à sa droite, et l'on entama les huîtres. Elle sentait la vase. Bouvard fut désolé, prodigua les excuses, et Pécuchet se leva pour aller dans la cuisine faire une scène à belles jambes. Pendant tout le premier service, composé d'une barbue entre un vol au vent et des pigeons en compote, la conversation roula sur la manière de fabriquer le suître. Après quoi, on en vint aux mets digestes ou indigestes. Le docteur, naturellement, fut consulté. Il jugeait les choses avec scepticisme, comme un homme qui a vu le fond de la science et cependant ne tolérait pas la moindre contradiction. En même temps que la loyau, on servit du Bourgogne. Il était trouble. Bouvard, attribuant cet accident au rinçage de la bouteille, en fit goûter trois autres, sans plus de succès, puis versa du Saint-Julien, trop jeune, évidemment. Et tous les convives se turent. Hurel souriait sans discontinuer. Les pas lourds du garçon résonnaient sur les dalles. Le dîner se prolonge, s'achève assez mal, et ainsi, presque aussitôt, on déboucha le champagne, dont les détonations amenèrent un redoublement de joie. Pécuchet fit un signe, les rideaux s'ouvrirent, et le jardin apparut. C'était dans le crépuscule quelque chose d'effrayant. Le rocher, comme une montagne, occupait le gazon. Le tombeau faisait un cube au milieu des épinards. Le pont vénitien, un accent circonflexe par-dessus les haricots. Et la cabane, au-delà, une grande tache noire. Car ils avaient incendié son toit pour la rendre plus poétique. Les ifs, en forme de serre ou de fauteuil, se suivaient jusqu'à l'arbre foudroyé qui s'étendait transversalement de la charmille à la tonnelle où des pommes d'amour pendaient comme des stalactites. Un tournesol, ça et là, étalait son disque jaune. La pagode chinoise, peinte en rouge, semblait un phare sur le vigneau. Les becs des pans frappés par le soleil se renvoyaient des feux et derrière la claire-voie débarrassait de ses planches. La campagne toute plate terminait l'horizon. Devant l'étonnement de leurs convives, Bouvard et Pécuchet ressentirent une véritable jouissance. Madame Bordin surtout admira les pans. Mais le tombeau ne fut pas compris, ni la cabane incendiée, ni le mur en ruine. Puis chacun à tour de rôle passa sur le pont. Pour remplir le bassin, Bouvard et Pécuchet avaient charrié de l'eau pendant toute la matinée. Elle avait fui entre les pierres du fond mal jointes et de la vase les recouvrait. Tout en se promenant, on se permit des critiques. À votre place, j'aurais fait cela, les petits pois sont en retard, ce coin franchement n'est pas propre. Avec une taille pareille, jamais vous n'obtiendrez de fruits. Bouvard fut obligé de répondre qu'il se moquait des fruits. Comme on longeait la chamille, il dit d'un air finaud, « Ah, voilà une personne que nous dérangeons, mille excuses. » La plaisanterie ne fut pas relevée, tout le monde connaissait la dame en plâtre. C'est une sculpture de dame qui fait pipi dans un coin. Après plusieurs détours dans le labyrinthe, on arriva devant la porte aux pipes. Des regards de stupéfaction s'échangèrent. Bouvard observait le visage de ses hôtes et impatient de connaître leur opinion. « Qu'en dites-vous ? » Madame Bordin éclata de rire. Tous firent comme elle. Le curé poussit une sorte de gloussement. Hurel toussait. Le docteur en pleurait. Sa femme fut prise d'un spasme nerveux. Et Fourreau, sans gêne, cassa un Abdelkader qu'il mit dans sa poche comme souvenir. Quand on fut sorti de la charmille, Bouvard, pour étonner son monde avec l'écho, cria de toutes ses forces « Serviteurs, mesdames !» Rien, pas d'écho. Cela tenait à des réparations faites à la grange, le pignon et la toiture étant démolis. Le café fut servi sur le vigneau et les messieurs allaient commencer une partie de boule quand ils virent en face, derrière la claire-voie, un homme qui les regardait. Il était maigre et hâlé, avec un pantalon rouge en lambeaux, une veste bleue sans chemise, la barbe noire taillée en brosse, et il articula d'une voix rauque « Donnez-moi un verre de vin !» Le maire et l'abbé Geoffroy l'avaient tout de suite reconnu. C'était un ancien menuisier de Chalignol. « Allons, Gorgu, éloignez-vous » dit Monsieur Fourreau. « On ne demande pas l'aumône. »« Moi, l'aumône ?» s'écria l'homme exaspéré. « J'ai fait 7 ans la guerre en Afrique. Je relève de l'hôpital. Pas d'ouvrage. Faut-il que j'assassine, nom d'un nom ?» Sa colère d'elle-même tomba, et les deux poings sur les hanches, il considérait les bourgeois d'un air mélancolique et gouailleur. La fatigue des bivouacs, l'absinthe et les fièvres, toute une existence de misère et de crapules se révélait dans ses yeux troubles. Ses lèvres pâles tremblaient en lui découvrant les gencives. Le grand ciel empourpré l'enveloppait d'une lueur sanglante, et son obstination restait là, causait une sorte d'effroi. Alors ce surgissement du vagabond dans la société qui vient de s'exposer à elle-même va être repris dans l'ensemble du livre et Gorgu devient un personnage de plus en plus important et en particulier évidemment dans l'épisode politique de la révolution de 48 et de l'installation du Second Empire. Comment le roman ici met peu à peu en place tout ce qu'il faut pour créer à la fois une société, la place des deux bonshommes au sein de cette société, qui sont toujours marginaux, qui essaient de la séduire, mais qui vont être toujours en distorsion par rapport à cette société, qui vont apparaître comme des originaux, et le parcours encyclopédique est tissé de plus en plus fortement avec l'opinion publique, avec les attitudes de chacun, et avec une dimension qu'on peut appeler sociale, politique et religieuse, qui va être tramée constamment. C'est en cela que Flaubert fait de son encyclopédie en farce une fiction romanesque en même temps, mais c'est l'un dans l'autre qui produit cet effet d'étrangeté constamment. Après le jardinage, l'agriculture tourne mal, l'alambic dans lequel ils veulent faire de la bouvarine, inventer une nouvelle liqueur, explose. Et il y a de ce moment-là un effet de transition que je voudrais souligner parce que on voit ainsi comment Flaubert fait passer ces deux bonshommes d'une science à une autre, d'une discipline à l'autre, à travers des liaisons qui sont tantôt logiques, tantôt de pur hasard. La force de la vapeur avait rompu l'instrument, d'autant que la cucurbite se trouvait boulonnée au chapiteau. Pécuchet tout de suite s'était accroupé derrière la cuve et Bouvard comme écroulé sur un tabouret. Pendant 10 minutes, ils demeurèrent dans cette posture, n'osant se permettre un seul mouvement, pâle de terreur au milieu des tessons. Quand il put recouvrir la parole, ils se demandèrent quelle était la cause de tant d'infortune, de la dernière surtout, et ils n'y comprenaient rien, sinon qu'ils avaient manqué périr. Pécuchet termina par ces mots, « C'est que peut-être nous ne savons pas la chimie. » Fin de chapitre, nouveau chapitre. Pour savoir la chimie, ils se procurèrent le cours de Regnault et apprirent d'abord que les corps simples sont peut-être composés. On les distingue en métalloïdes et en métaux, différence qui n'a rien d'absolu, dit l'auteur. De même pour les acides et les bases, un corps pouvant se comporter à la manière des acides ou des bases suivant les circonstances. La notation leur parut baroque. Les proportions multiples troublèrent Pécuchet. Puisqu'une molécule de A, je suppose, se combine avec plusieurs parties de B, il me semble que cette molécule doit se diviser en autant de parties, mais si elle se divise, elle cesse d'être l'unité, la molécule primordiale. Enfin, je ne comprends pas. Moi non plus, disait Bouvard. Et ils recoururent à un ouvrage moins difficile, celui de Girardin, où ils acquirent la certitude que 10 litres d'air pèsent 100 grammes, qu'il n'entre pas de plomb dans les crayons, que le diamant n'est que du carbone. Ce qui les ébahit par-dessus tout, c'est que la terre comme élément n'existe pas. Ils saisirent la manœuvre du chalumeau, l'or, l'argent, la lessive du linge, l'étamage des casseroles, puis sans le moindre scrupule, Bouvard et Pécuchet se lancèrent dans la chimie organique. Quelle merveille que de retrouver chez les êtres vivants les mêmes substances qui composent les minéraux. Néanmoins, ils éprouvaient une sorte d'humiliation à l'idée que leur individu contenait du phosphore comme les allumettes, de l'albumine comme les blancs d'œufs, du gaz hydrogène comme les réverbères. Après les couleurs et les corps gras, ce fut le tour de la fermentation. Elle les conduisit aux acides, et la loi des équivalents les embarrassa encore une fois. Ils tâchèrent de l'élucider avec la théorie des atomes, ce qui acheva de les perdre. Pour entendre tout cela, selon Bouvard, il aurait fallu des instruments, la dépense était considérable et ils en avaient trop fait. Mais le docteur Vaucorbeil pouvait sans doute les éclairer. Ils se présentèrent au moment de ces consultations. « Messieurs, je vous écoute, quel est votre mal ?» Pécuchet répliqua qu'il n'était pas malade, ayant exposé le but de leur visite. « Nous désirons connaître premièrement l'atomicité supérieure. » Le médecin rougit beaucoup, puis les blâma de vouloir apprendre la chimie. Et de là, en effet, la chimie est abandonnée, et Flaubert, de ce point de vue, de la chimie passe très vite, de même que Flaubert a éliminé les mathématiques. Dans les premiers scénarios, il pensait les traiter des mathématiques. Manifestement, c'est une matière qui n'était pas malléable en fiction, qui n'était pas dans laquelle peut-être les erreurs à commettre n'étaient pas suffisamment maîtrisées, et en tout cas, ça a été abandonné. Après la chimie, les deux personnages passent à la médecine, et décident d'exercer la médecine eux-mêmes. Ils accompagnaient le médecin chez les pauvres, puis consultaient leurs livres. Les symptômes notés par les auteurs n'étaient pas ceux qu'ils venaient de voir. Il y a dans ce livre constamment ce trouble que les choses ne ressemblent pas aux noms des choses, et que les noms des choses ne suffisent pas à montrer les choses. Par exemple, quand ils tentent de nommer les nuages, d'après une classification, les nuages avaient changé de forme avant qu'ils ne trouvent les noms. Quant au nom des maladies, du latin, du grec, du français, une bigarrure de toutes les langues. On les compte par milliers. La classification linéenne est bien commode avec ces genres et ces espèces. Mais comment établir les espèces? Alors ils s'égarèrent dans la philosophie de la médecine. Ils rêvaient sur l'arcade de Van Helmont, le vitalisme, le brownisme, l'organicisme, demandaient au docteur d'où vient le germe de la scrofule, vers quel endroit se porte le miasme contagieux et le moyen de tous les cas morbides pour distinguer la cause de ses effets. La cause et l'effet s'embrouillent, répondaient vos corbeilles. Au fond des chambres, sur de sales matelas, reposaient des gens dont la figure pendait d'un côté, d'autres l'avaient bouffie ou d'un rouge écarlate, ou couleur de citron, ou bien violette, avec les narines pincées, la bouche tremblante, et des râles, des hoquets, des sueurs, des exhalaisons de cuir et de vieux fromage. Ils lisaient les ordonnances de leurs médecins et étaient fort surpris que les calmants soient parfois des excitants, les vomitifs des purgatifs, qu'un même remède convienne à des affections diverses, et qu'une maladie s'en aille sous les traitements opposés. Néanmoins, ils donnaient des conseils, remontaient le moral, avaient l'audace d'ausculter. Voilà des deux bons hommes qui entrent véritablement dans la réalité des malades, de la société, jusqu'à évidemment se faire reprocher l'exercice illégal de la médecine, bien sûr, et surtout de faire des monstruosités, des traitements qui sont véritablement scandaleux et qui peuvent tuer les personnes auxquelles ils s'appliquent. Les deux bons hommes abandonnent donc aussitôt la médecine, mais Bouvard était là de la médecine. Les ressorts de la vie nous sont cachés, les affections trop nombreuses, les remèdes problématiques, et on ne découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé, de la maladie, de la diathèse, ni même du pu. Cependant, toutes ces lectures avaient ébranlé leur cervelle. Bouvard, à l'occasion d'un rhume, se figura qu'il commençait une fluxion de poitrine. Des sangsues n'ayant pas affaibli le point de côté, il eut recours à un vésicatoire dont l'action se porta sur les reins, alors il se crut attaqué de la pierre. Pécuchet prit une courbature à l'élagage de la charmille et vomit après son dîner, ce qui l'effraya beaucoup, puis observant qu'il avait le teint un peu jaune, suspecta une maladie de foie, se demandait « ai-je des douleurs ?» et finit par en avoir. S'attristant mutuellement, ils regardaient leur langue, se tâtaient le pouls, changeaient d'eau minérale, se purgeaient et redoutaient le froid, la chaleur, le vent, la pluie, les mouches, principalement les courants d'air. Constamment dans ce livre, on passe de l'exaltation, du désir de voir, de savoir, de guérir, à des grands moments de profonde dépression. Le noir passe, l'ennui, la mélancolie passe. Après cela, la médecine ne convenant pas, ils passent à l'hygiène, font un régime qu'ils abandonnent vite, en commandant du champagne et en mangeant tout ce qu'ils veulent. S'étant libérés de la médecine, de la maladie et de l'hygiène, il y a une autre transition qui va faire passer vers d'autres sciences beaucoup plus grandes. Puis comme autrefois, ils allaient reprendre le Gloria sur le vigneau. La moisson venait de finir, et des meules au milieu des champs dressaient leur masse noire sur la couleur de la nuit, bleuâtre et douce. Les fermes étaient tranquilles. On n'entendait même plus les grillons. Toute la campagne dormait. Ils digéraient en humant la brise et rafraîchissaient leurs pommettes. Le ciel très haut était couvert d'étoiles, les unes brillant par groupes, d'autres à la file ou bien seules à des intervalles éloignés. Une zone de poussière lumineuse allant du septentrion au midi se bifurquait au-dessus de leur tête. Il y avait entre ces clartés de grands espaces vides, et le firmament semblait une mer d'azur, avec des archipels et des îlots. « Quelle quantité !» s'écria Bouvard. « Nous ne voyons pas tout !» reprit Pécuchet. Derrière la voie lactée, ce sont les nébuleuses, au-delà des nébuleuses, des étoiles encore. La plus voisine est séparée de nous par 300 millions de myriamètres. Il avait regardé souvent dans le télescope de la place Vendôme et se rappelait les chiffres. Le soleil est 1 million de fois plus gros que la Terre. Sirius a 12 fois la grandeur du soleil. Des comètes mesurent 34 millions de lieues. C'est à rendre fou, dit Bouvard. Il déplora son ignorance et même regretta de n'avoir pas été dans sa jeunesse à l'école polytechnique. De la astronomie, on passe étrangement, et alors là, Flaubert fait un véritable travail de réflexion sur les sciences, sur le partage des sciences au XIXe siècle, et qu'il monte romanesquement, on pourrait dire, puisqu'on va passer de l'infini céleste, l'astronomie est très très vite abandonnée, à la création de la nature, de la Terre. Ils lisent « Les époques de la nature » de Buffon, qui est un livre fondamental et que Flaubert a beaucoup lu. Et les époques de la nature les ramènent vers le globe, vers la création du monde. Et on passe donc à une question beaucoup plus originaire. Avec un détour, curieusement, par la zoologie. Et la zoologie et les espèces qui sont le vivant. Leur fermier ne possédait pas de bouc. Une voisine prêta le sien. Et l'époque du rut étant venue, ils s'enfermèrent les deux bêtes dans le pressoir en se cachant derrière les futailles pour que l'événement puisse s'accomplir en paix. Chacune, d'abord, mangea son petit tas de foin. Puis elles ruminèrent, la brebis se coucha, et elle bêlait sans discontinuer pendant que le bouc d'aplomb sur ses jambes torses avec sa grande barbe et ses oreilles pendantes fixées sur eux, ses prunelles qui luisaient dans l'ombre. Enfin, le soir du troisième jour, ils jugèrent convenable de faciliter la nature. Mais le bouc se retournant contre Pécuchet lui flanqua un coup de corne au bas du ventre. La brebis, saisie de peur, se mit à tourner dans le pressoir comme dans un manège. Bouvard courut après, se jeta dessus pour la retenir et tomba par terre avec des poignées de laine dans les deux mains. Ils renouvelèrent leur tentative sur des poules et un canard, sur un dogue et une truie, avec l'espoir qu'il en sortirait des monstres, et ne comprenant rien à la question de l'espèce. Ici, nous entrons dans un autre type d'application très proche d'expérimentation. Et en particulier, Bouvard et Pécuchet vont collectionner tous les cas de monstruosité, tous les cas d'étrangeté humaine, animale, terrestre, botanique, etc. De la zoologie, on revient à la géologie. Et là, les deux personnages s'habillent en géologue, et comme les deux Dupont dans Tintin, ils prennent à chaque fois l'habit convenable pour le pays ou pour le lieu, et donc ils achètent la panoplie du vrai géologue, mais qui est trop neuve, qui ne leur va pas bien. Enfin, il y a un côté, là aussi, appliqué, faussement, les trouble. Et constamment, le texte revient, malgré tout, dans cet espace très comique, très critique, revient à un moment où le monde est retrouvé, où la nature, où l'immensité est retrouvée, comme dans celui-ci. Et une sorte d'angoisse qui traverse à chaque instant devant l'immensité des choses. La marée étant basse, elle découvrait tous ses galets, avec une prairie goémon jusqu'au bord des flots. Des vallonnements herbeux découpaient la falaise composée d'une terre molle et brune et qui se durcissant devenait dans ses strates inférieures une muraille de pierre grise. Des filets d'eau en tombaient sans discontinuer pendant que la mer au loin grondait. Elle semblait parfois suspendre son battement, et on n'entendait plus que le petit bruit des sources. Ils titubaient sur des herbes gluantes, ou bien ils avaient à sauter des trous. Bouvard s'assit près du rivage et contempla les vagues, ne pensant à rien, fasciné, inerte. Pécuchet le ramena vers la côte pour lui faire voir un ammonite incrusté dans la roche comme un diamant dans sa gangue. Leurs ongles s'y brisèrent. Il aurait fallu des instruments. La nuit venait, d'ailleurs. Le ciel était empourpré à l'occident, et toute la place couverte d'une ombre. Au milieu des varechs presque noirs, les flaques d'eau s'élargissaient, la mer montait vers eux, il était temps de rentrer. C'est avec ce sol, je peux dire, que Flaubert renoue dans l'aventure encyclopédique, cette existence du monde, des choses, la mer, la nuit, l'immensité des choses, qui est le fond dans lequel reviennent toujours Bouvard et Pécuchet. C'est un roman qui est étonnamment à la fois abstrait, les deux personnages sont rigides, sont expérimentaux, sont dans un contraste qui veut signifier l'opposition, et en même temps passe par moment, par instant, renoue avec l'immensité du monde, avec la sensation des choses. Les deux bons hommes abandonnent évidemment aussitôt la géologie, mais ils l'abandonnent dans un mouvement qui mérite d'être lu, remontant la discipline jusqu'à son origine, remontant vers la pensée, la représentation de la Terre, et en particulier du mouvement des choses, et il y a une rêverie sur les volcans. Et Bouvard et Pécuchet sont atteints d'une sorte de maladie qui est de prendre les représentations, par exemple, du mouvement des roches comme une chose palpable, comme une chose saisissable. Donc il parle des volcans. Bouvard promena sa vue sur les flots et crut distinguer au loin une fumée qui montait vers le ciel. Puisque l'île Julia, reprit Pécuchet, a disparu, les terrains produits par la même cause auront peut-être le même sort. Un îlot de l'archipel est aussi important que la Normandie et même que l'Europe. Bouvard se figura l'Europe engloutie dans un abîme. Admet, dit Pécuchet, qu'un tremblement de terre ait lieu sous la Manche. Les eaux se ruent dans l'Atlantique, les côtes de la France et de l'Angleterre en chancelant sur leur base s'inclinent, se rejoignent, et vlan, tout l'entre-deux est écrasé. Au lieu de répondre, Bouvard se mit à marcher tellement vite qu'il fut bientôt à 100 pas de Pécuchet. Étant seul, l'idée d'un cataclysme le troubla. Il n'avait pas mangé depuis le matin, s'étant bourdonné, tout à coup le sol lui parut tressaillir, et la falaise au sommet, au-dessus de sa tête penchée par le sommet. À ce moment, une pluie de gravier découla d'en haut. Pécuchet l'aperçut, qui détalait avec violence, comprit sa terreur, cria de loin « Arrête, arrête, la période n'est pas accomplie !» Et pour le rattraper, il faisait des sauts énormes avec son bâton de touriste, tout en vociférant « La période n'est pas accomplie, la période n'est pas accomplie !» Bouvard en démence courait toujours. Le parapluie polybranche tomba, les pans de sa redingote s'envolaient, le havresac ballottait à son dos. C'était comme une tortue avec des ailes qui aurait galopé parmi les roches. Une plus grosse le cacha. Pécuchet y parvint hors d'haleine, ne vit personne, puis retourna en arrière pour gagner les champs par une valeuse que Bouvard avait prise, sans doute. Ce raidillon étroit était taillé à grande marge dans la falaise, de la largeur de deux hommes et luisant comme de l'albâtre poli. À 50 pieds d'élévation, Pécuchet voulut descendre. La mer battait son plein, il se remit à grimper. Au second tournant, quand il aperçut le vide, la peur le glaça. À mesure qu'il approchait du troisième, ses jambes devenaient molles. Les couches de l'air vibraient autour de lui, une crampe le pinçait à l'épigastre. Il s'assit par terre, les yeux fermés, n'ayant plus conscience que des battements de son cœur qui l'étouffaient. Puis il jeta son bâton de touriste et avec les genoux et les mains reprit son ascension. Mais les trois marteaux tenus à la ceinture lui entraient dans le ventre. Les cailloux dont ses poches étaient bourrés tapaient ses flancs. La visière de sa casquette l'aveuglait, le vent redoublait de force. Enfin, il atteignit le plateau et y trouva Bouvard qui était monté plus loin par une valeuse moins difficile. Une charrette les recueillit. Ils oublièrent Étretat. Ces moments de quasi-folie traversent à plusieurs reprises le roman et percent comme de l'angoisse, comme si le réel tout à coup se déchirait dans la rencontre entre la représentation qu'on peut en avoir et l'émotion, la sensation. Et ces moments de quasi-folie touchent toujours à l'originaire, touchent à la cruauté, touchent à la philosophie aussi, on viendra dans quelques instants. Cet itinéraire que je veux suivre, évidemment, les étapes sont nombreuses, sont multiples et il faut choisir. Et je passe tout de suite, après cette sortie de la géologie par la folie, véritablement, par le moment où l'élémentaire a été quasiment touché, les deux bons hommes deviennent archéologues. Par un pur hasard, ils rencontrent un objet, un bahut renaissance, qui deviendra un des motifs de tout le roman, et que Gorgu, l'ouvrier, va leur réparer, plutôt leur promettre de réparer pendant tout le roman, et on retrouve ici l'intrigue. De l'archéologie, ils passent à l'histoire, parce que ils se rendent compte que ne sachant pas l'histoire, ils ne peuvent pas devenir archéologues. L'histoire échoue également, ils tentent d'écrire une histoire, l'histoire du duc d'Angoulême. Ils ne réussissent au moment où cette histoire est presque composée, et au moment de quitter la bibliothèque dans laquelle on vient de leur montrer un portrait du duc d'Angoulême, on leur montre un autre portrait du duc d'Angoulême, où ils ne se ressemblent pas du tout. Donc la vérité historique, évidemment, est très difficile à établir. On retrouve à ce moment-là l'entourage familial, local, les troubles domestiques et les deux bons hommes abandonnent l'histoire, ne sachant même pas, disent-ils, ce qui se passe chez eux. De l'histoire, on passe à la littérature, parce que, avec cette idée que les faits étant difficiles à établir, il faut plus d'imagination. Et il y a là, au milieu du livre, une très belle scène sur l'usage de la littérature comme séduction. Un jour que Bouvard tâchait de faire comprendre à Pécuchet le jeu de Frédéric Lemaître, Madame Bordin se montra tout à coup avec son châle vert et un volume de Pigault Lebrun qu'elle rapportait, ces messieurs ayant l'obligeance de lui prêter des romans quelquefois. Mais continuez, car elle était là depuis une minute et avait plaisir à les entendre. Ils s'excusèrent, elle insistait. Mon Dieu, dit Bouvard, rien ne nous empêche. Pécuchet allégua par fausse honte qu'il ne pouvait jouer à l'improviste, sans costume. Effectivement, nous aurions besoin de nous déguiser. Et Bouvard chercha un objet quelconque, ne trouva que le bonnet grec et le prit. Comme le corridor manquait de largeur, ils descendirent dans le salon. Des araignées couraient le long des murs. Et les spécimens géologiques, encombrant le sol, avaient blanchi de leur poussière le velours des fauteuils. On étala sur le moins mal propre un torchon pour que Madame Bordin puisse s'asseoir. Il fallait lui servir quelque chose de bien. Bouvard était partisan de la tour de Nesle, mais Pécuchet avait peur des rôles qui demandent trop d'action. Elle aimera mieux du classique, Phèdre par exemple. La mèche du bonnet rouge s'inclinait amoureusement, et sa voix tremblante et sa figure bonne conjuraient le cruel de prendre en pitié sa flamme. Pécuchet, en se détournant, haletait pour marquer de l'émotion. Madame Bordin, immobile, écarquillait les yeux comme devant les faiseurs de tours. Mélie écoutait derrière la porte, Gorgu, en manche de chemise, les regardait par la fenêtre. Bouvard entama la seconde tirade. Son jeu exprimait le délire des sens, le remords, le désespoir. Il se rua sur le glaive idéal de Pécuchet avec tant de violence que, trébuchant dans les cailloux, il faillit tomber par terre. Ne faites pas attention. Puis Thésée arrive et elle s'empoisonne. Pauvre femme, dit Madame Bordin. Cet usage ici de la lecture, cette scène hautement comique, bien sûr, nous indique, on voit évidemment quand le texte littéraire est cité, à quel point la torsion devient comique. Hein. Parlant au profil de Pécuchet, il admirait son port, son visage, cette tête charmante, citation, etc. Il faut penser qu'avec les textes scientifiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que citant la chimie, citant la médecine, Flaubert fait la même torsion des textes scientifiques qui viennent à l'indirect libre, comme ça, cités, narrativisés, racontés, et il y a la même déformation par rapport aux théories scientifiques que par rapport, évidemment, aux textes littéraires. C'est constamment ce jeu de troubles et de perspectives auquel Flaubert fait passer toute chose. Après la littérature et la lecture, et cette grande scène de séduction, il y a le grand épisode de la politique, avec ici une sorte d'approfondissement, la comédie devenant extrêmement grinçante. Et encore une fois, quand on traverse le livre, le fond du réel, on pourrait dire, avec les conflits sociaux, avec les différences, les inégalités, les horreurs, perce constamment dans le livre. Les fabriques chômées, les pauvres nombreux errés dans la campagne. Un dimanche, c'était dans les premiers jours de juin, un gendarme tout à coup parti vers Falaise, les ouvriers d'Acqueville, Liffard, Pierrepont et Saint-Rémy marchaient sur Chavignol. Les auvents se fermèrent. Le conseil municipal s'assembla et résolut pour prévenir des malheurs qu'on ne ferait aucune résistance. La société de Chavignol est celle de l'opinion, la plus molle qui soit, la plus lâche qui soit, de ce point de vue, sont parfaitement réversibles, etc. La gendarmerie fut même consignée avec l'injonction de ne pas se montrer. Bientôt, on entendit comme un grondement d'orage. Puis le chant des Girondins ébranla les carreaux et des hommes, bras dessus, bras dessous, débouchèrent par la route de Caen, poudreux, en sueur, dépenaillés. Ils emplissaient la place, un grand brouhaha s'élevait. Gorgu et deux compagnons entrèrent dans la salle. L'un était maigre et à figure chafouine avec un gilet de tricot dont les rosettes pendaient. L'autre noir de charbon, un mécanicien sans doute, avec les cheveux en brosse, de gros sourcils et des savates de lisière. Gorgu, comme un hussard, portait sa veste sur l'épaule. Tous les trois restaient debout, et les conseillers, siégeant autour de la table couverte d'un tapis bleu, les regardaient, blêmes d'angoisse. « Citoyens, dit Gorgu, il nous faut de l'ouvrage !» Le maire tremblait, la voix lui manqua. Marisco répondit à sa place que le conseil aviserait immédiatement, et les compagnons étant sortis, on discuta plusieurs idées. La première fut de tirer du caillou. Pour utiliser les cailloux, Girbal proposa un chemin, celui de Bayeux, etc. Ces instants où une tension profonde surgit, où là encore Gorgu est un motif du socialiste, de l'ouvrier, que Flaubert traite non tendrement, c'est-à-dire qu'il est traité comme une menace, comme quelqu'un absolument pas fiable, n'est pas fidèle, etc., mais qui apparaît comme le surgissement dans cette société qui voudrait s'apaiser dans le savoir, dans la convention, le surgissement d'un réel qui le déchire sans cesse. Et c'est cette puissance de déchirement qui, je crois, fait la richesse de Bouvard et Pécuchet. Après la politique, il y a aussitôt l'amour, et l'épisode d'amour est un merveilleux parallèle, puisque Pécuchet est encore vierge, apprend-on, et a sa première expérience amoureuse avec la servante, Mélie, qu'il pensait être une jeune fille, et pendant ce temps, Bouvard, qui lui a eu une vie amoureuse, séduit Madame Bordin. Bouvard vient de trouver Madame Bordin très séduisante. « Je vous aime, marions-nous » Et finalement, elle lui demande brutalement « D'accord, mais il me faut donner une ferme en échange. » Et les deux bons hommes, qui ne s'étaient rien dit, se retrouvent. 8 jours après, le jeudi, il rentra furieux. « La sacrée garce ! Qui donc ? Madame Bordin ?» Et il conta qu'il avait poussé la démence jusqu'à vouloir en faire sa femme. Mais tout était fini depuis un quart d'heure chez Marasco. Elle avait prétendu recevoir en dot les écales dont il ne pouvait disposer, l'ayant comme la ferme, soldée en partie avec l'argent d'un autre. Effectivement, dit Pécuchet. Et moi qui ai eu la bêtise de lui promettre une faveur à son choix, c'était celle-là. J'y ai mis de l'entêtement, si elle m'aimait, elle m'eût cédé. La veuve, au contraire, s'était emportée en injures, avait dénigré son physique, sa bedaine. Ma bedaine, je te demande un peu. Pécuchet, cependant, était sorti plusieurs fois, marchait les jambes écartées. Tu souffres ? Dit Bouvard. Oh oui, je souffre. Et ayant fermé la porte, Pécuchet, après beaucoup d'hésitation, confessa qu'il venait de se découvrir une maladie secrète. « Toi ? Moi-même. Oh, mon pauvre garçon ! Qui te l'a donné ?» Il devint encore plus rouge, et d'une voix encore plus basse, ce ne peut être que Mélie. Bouvard en demeura stupéfait. Donc l'épisode de l'amour se termine tout à fait par un double échec. Là encore, l'aspect de symétrie et de voisinage de personnages ajoute au comique. Après cela, amour, hygiène, ils se mettent au sport. Je voudrais simplement lire un tout petit passage ici. On traverse les manuels d'hygiène et de gymnastique. À défaut d'haltère, le charron leur tourna quatre morceaux de frêne qui ressemblaient à des pains de sucre, se terminant en goulot de bouteille. On doit porter ces massues à droite, à gauche, par devant, par derrière, mais trop lourdes, elles échappaient de leurs doigts, au risque de leur broyer les jambes. N'importe, ils s'acharnèrent aux mille persanes, et même craignant qu'elles n'éclatassent, tous les soirs, ils se les frottaient avec de la cire et un morceau de droit. Ensuite, ils recherchèrent des fossés. Quand ils en avaient trouvé un à leur convenance, ils appuyaient au milieu une longue perche, s'élançaient du pied gauche, atteignaient l'autre bord, puis recommençaient. La campagne étant plate, on les apercevait au loin, et les villageois se demandaient quelles étaient ces deux choses extraordinaires bondissant à l'horizon. Et le roman est fait incessamment de ces découpes qui les isolent comme étrangeté et qui fait la grande richesse. De l'hygiène, on passe à la question du magnétisme et du mysticisme. Et le magnétisme est un moment très fort, très frappant, qui là aussi s'interroge au fond sur le vivant, sur l'énergie. Ils se mettent à magnétiser tout ce qu'ils peuvent, les animaux, les gens, ils font des cercles, etc. Et en particulier un épisode d'un comique, alors là lui presque grossier, mais c'est dans le livre. On les appelle à propos d'une vache désespérée. Ils y coururent, les pommiers étaient en fleurs et l'herbe dans la cour fumait sous le soleil levant. Au bord de la mare, à demi couverte d'un drap, une vache beuglée, grelottante des seaux d'eau qu'on lui jetait sur le corps, et démesurément gonflée, elle ressemblait à un hippopotame. Sans doute elle avait pris du venin en pâturant dans les trèfles. Le père et la mère Gouy se désolaient, car le vétérinaire ne pouvait venir, et un charron qui savait des mots contre l'enflure ne voulait pas se déranger, mais ces messieurs dont la bibliothèque était célèbre devaient connaître un secret. Ayant retroussé leurs manches, ils se placèrent l'un devant les cornes, l'autre à la croupe. Et avec de grands efforts intérieurs et une gesticulation frénétique, ils écartaient les doigts pour épandre sur l'animal des ruisseaux de fluide, tandis que le fermier et son épouse, leurs garçons et les voisins les regardaient presque effrayés. Les gargouillements que l'on entendait dans le ventre de la vache provoquèrent des borborygmes au fond de leurs entrailles. Elle émit un vent. Pécuchet dit alors: c'est une porte ouverte à l'espérance, un débouché peut-être. Le débouché s'opéra, l'espérance jaillit dans un paquet de matière jaune éclatant avec la force d'un obus, les cœurs se desserrèrent, la vache dégonfla, une heure après, il n'y paraissait plus. Après avoir le magnétisme et l'hypnotisme, nous passons curieusement à la pensée, à la profondeur de la pensée, et en particulier à la philosophie. L'épisode philosophique est très sinueux, très compliqué, je ne peux pas le lire ici. Je voulais simplement dire que c'est un moment où l'envol se fait de plus en plus grand. Dans cette méditation, des pensées avaient surgi, ils s'abordaient, craignant de les perdre, et la métaphysique revenait. Elle revenait à propos de la pluie ou du soleil, d'un gravier dans leurs souliers, d'une fleur sur le gazon, à propos de tout. En regardant brûler la chandelle, ils se demandaient si la lumière est dans l'objet ou dans notre œil. Puisque des étoiles peuvent avoir disparu quand leur éclat nous arrive, nous admirons peut-être des choses qui n'existent pas. Ayant retrouvé au fond d'un gilet une cigarette raspail, ils l'émiettèrent sur de l'eau et le camphre tourna. Voilà donc le mouvement dans la matière, un degré supérieur du mouvement amènerait la vie. Mais si la matière en mouvement suffisait à créer les êtres, ils ne seraient pas si variés, car il n'existait à l'origine ni terre, ni eau, ni homme, ni plante. Qu'est-ce donc cette matière primordiale qu'on n'a jamais vue, qui n'est rien des choses du monde et qui les a toutes produites? Quelquefois, ils avaient besoin d'un livre. Du Mouchel, fatigué de les servir, ne leur répondait plus, et ils s'acharnaient à la question, principalement Pécuchet. Son besoin de vérité donnait une soif ardente. Du Mouchel sert de correspondant à Paris, il demande les livres qu'il les envoie, et Du Mouchel, cet ami présenté initialement, là aussi va être une continuité jusqu'à la fin du livre. En fait, tout se défait, la philosophie elle-même ne tient plus, et il tombe, comme dit Flaubert dans un des scénarios, « mais alors tu vas tomber dans l'abîme du scepticisme ». Et de fait, il y a, et c'est là que le roman va vers sa fin, ou plutôt son deuxième étage, il y a un moment qui est le moment noir. Ennui atroce, dit Flaubert dans les scénarios. Comme si la traversée de l'encyclopédie était sur un fond de désespoir, de désespérance totale. Et là, on n'est pas loin de Faust avec l'idée que le savoir, la connaissance est envahie par l'obscurité, est envahie par le noir. Évidemment, toujours dans cette étrangeté de comique, de profondeur, d'angoisse. Ils examinèrent la question du suicide. Où est le mal de rejeter un fardeau qui vous écrase et de commettre une action ne nuisant à personne? Si elle offensait Dieu, aurions-nous ce pouvoir? Ce n'est pas une lâcheté, bien qu'on dise. Et ils délibérèrent sur le genre de mort. Le poison fait souffrir. Pour s'égorger, il faut trop de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Enfin, Pécuchet monta dans le grenier deux câbles de la gymnastique, puis les ayant liés à la même traverse du toit, laissa pendre un nœud coulant et avança dessous deux chaises pour éteindre deux cordes. Ce moyen fut résolu. Le soir du 25 décembre, entre 10 et 11 heures, il réfléchissait dans le muséum, habillé différemment. Bouvard portait une blouse sur son gilet de tricot et Pécuchet, depuis 3 mois, ne quittait plus la robe de moine, par économie. Comme ils avaient grand faim, car Marcel, sorti de pull, dès l'aube, n'avait pas reparu, Bouvard crut hygiénique de boire un carafon d'eau de vie et Pécuchet de prendre du thé. En soulevant la bouilloire, il répandit de l'eau sur le parquet. « Maladroit !» s'écria Bouvard. Puis, trouvant l'infusion médiocre, il voulut la renforcer par 2 cuillerées de plus. « Ce sera exécrable !» dit Pécuchet. « Pas du tout !» Et chacun tirant à soi la boîte, le plateau tomba. Une des tasses fut brisée, la dernière du beau service en porcelaine. Bouvard pâlit. « Continue, saccage, ne te gêne pas !»« Grand malheur, vraiment !»« Oui, un malheur, je l'ai tenu de mon père !»« Naturel !» ajouta Pécuchet en ricanant. « Ah, tu m'insultes ? Non, mais je te fatigue, avoue-le !» Et Pécuchet fut pris de colère, ou plutôt de démence. Bouvard aussi. Ils criaient à la fois tous les deux, l'un irrité par la faim, l'autre par l'alcool. La gorge de Pécuchet n'émettait plus qu'un râle. « C'est infernal, une vie pareille. J'aime mieux la mort. Adieu !» Il prit le flambeau, tourna les talons, claqua la porte. Bouvard, au milieu des ténèbres, eut peine à l'ouvrir, courut derrière lui, arriva dans le grenier. La chandelle était par terre, et Pécuchet, debout sur une des chaises, avec le câble dans sa main. L'esprit d'imitation emporta Bouvard. « Attends-moi !» Et il montait sur l'autre chaise, qu'en s'arrêtant tout à coup. « Mais... nous n'avons pas fait notre testament. Tiens, c'est juste. » Des sanglots gonflaient leur poitrine. Ils se mirent à la lucarne pour respirer. L'air était froid, et des astres nombreux brillaient dans le ciel, noir comme de l'encre. La blancheur de la neige qui couvrait la terre se perdait dans les brumes de l'horizon. Ils aperçurent de petites lumières à ras du sol, et grandissant, se rapprochant, tout allait du côté de l'église. Une curiosité les y poussa, c'était la messe de minuit. Ces lumières provenaient des lanternes des bergers, quelques-uns sous le porche secouaient leurs manteaux. Le serpent ronflait, lançant fumée, des vers suspendus dans la longueur de la nef dessinaient 3 couronnes de feu multicolores, et au bout de la perspective, des 2 côtés du tabernacle, les cierges géants dressaient des flammes rouges. Par-dessus les têtes de la foule et les caplines des femmes, au-delà des chantres, on distinguait le prêtre dans sa chasuble d'or. À sa voix aiguë répondaient les voix fortes des hommes emplissant le jubé et la voûte de bois tremblait sur ses arceaux de pierre. Des images représentant le chemin de la croix décoraient les murs. Au milieu du chœur, devant l'autel, un agneau était couché, les pattes sous le ventre, les oreilles toutes droites. La tiède température leur procura un singulier bien-être, et leurs pensées, orageuses tout à l'heure, se faisaient douces, comme des vagues qui s'apaisent. Ils écoutaient à l'évangile le credo, observaient les mouvements du prêtre, cependant les vieux, les jeunes, les pauvresses en guenilles, les fermières en haut bonnet, les robustes gars à blond favoris, tous priaient, absorbés dans la même joie profonde. Et voyez sur la paille d'une étable, rayonner comme un soleil, le corps de l'enfant Dieu. Cette foi des autres touchait Bouvard en dépit de sa raison, et Pécuchet malgré la dureté de son cœur. Il y eut un silence, tous les dos se courbèrent, et au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla. L'hostie fut montrée par le prêtre au bout de ses 2 bras, le plus haut possible, alors éclata un chant d'allégresse qui conviait le monde au pied du roi des anges. Bouvard et Pécuchet involontairement s'y mêlèrent, et ils sentaient comme une aurore se lever dans leur âme. C'est un moment quasi miracle, bien sûr, où là, Flaubert traite de la religion comme dans un cœur simple. 3 contes ont été écrits au milieu de Bouvard et Pécuchet, comme ce moment où une sorte de réalisme de l'adhésion, tout simplement. Avec en particulier ce détail, au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla, cet objet animal qui est de la Normandie, qui est paysan, et qui est en même temps ici hautement symbolique, bien sûr. La religion n'a pas plus de chance, pourtant, puisqu'elle devient l'objet elle-même d'un débat. discussion avec le curé, ils entrent dans la religion comme dans les autres disciplines, il faut savoir sur la religion, et il y a en particulier un grand débat entre le curé et Pécuchet à propos des saints et des martyrs. La religion se défait dans un grand rêve pédagogique, les deux bonshommes adoptent des enfants pour les éduquer, la traversée encyclopédique fait ce retour, et le livre est vraiment construit en spirale, comme la spirale est le monument, le titre d'un livre d'Yvan Leclerc sur Bouvard et Pécuchet, parce que, après avoir échoué dans les différentes disciplines, après avoir touché le fond philosophique et religieux, qui aurait pu être le lieu de la certitude, de la croyance, de l'adhésion, à nouveau, on va passer vers la pédagogie et vers l'enseignement, étant entendu que ce sera peut-être un moyen de retrouver les disciplines en les enseignant. Ceci échoue, les deux enfants qui donnaient toute joie pour l'avenir se révèlent des petits monstres, et il y a constamment dans ce texte des moments de monstruosité, je le disais tout à l'heure, comme celui-ci par exemple. Retire-le, c'est trop, Pécuchet entre en entendant un cri dans la pièce, dans la cuisine. Retire-le, c'est trop, le couvercle de la marmite sauta comme un obus éclate, une masse grisâtre bondit jusqu'au plafond, puis tourna sur elle-même frénétiquement en poussant d'abominables cris. On reconnut le chat, tout efflanqué, sans poils, la queue pareille à un cordon. Des yeux énormes lui sortaient de la tête, ils étaient couleur de lait, comme vidés et pourtant regardés. La bête hideuse hurlait toujours, se jeta dans l'âtre, disparut, puis retomba au milieu des cendres, inerte. C'était Victor qui avait commis cette atrocité, et les deux bons hommes se reculèrent, pâle de stupéfaction et d'horreur. Au reproche qu'on lui adressait, il répondit comme le garde champêtre pour son fils et comme le fermier pour son cheval, « Eh bien, puisqu'il est à moi, sans gêne, naïvement, dans la plasticité d'un instinct assouvi. » L'eau bouillante de la marmite était répandue par terre, des casseroles, les pincettes et des flambeaux jonchaient les dalles. Marcel fut quelque temps à nettoyer la cuisine et ses maîtres enterrèrent le pauvre chat dans le jardin, sous la pagode. Voilà ces moments d'atrocité où le sadisme là réapparaît, l'horreur de l'instinct ou la monstruosité possible, et la pédagogie échoue elle aussi sur ce seuil. Le roman est inachevé à ce point, c'est-à-dire que Flaubert a arrêté le manuscrit, ou plutôt est mort, avec dans le manuscrit un projet de conférence, de grande conférence, où Bouvard et Pécuchet devaient réunir toute la ville et plaider pour le monde. L'un voit le monde en bien, l'autre voit le monde en mal, voit l'avenir de l'humanité en beau, l'homme moderne est en progrès, l'autre en mal. Et tout se termine par la réunion des personnages, une vraie scène de folie, enfin Flaubert avait rêvé une vraie scène de folie avec le préfet qui envoie les pour les arrêter, etc. Ça se termine, le plan, scénario. Ainsi tout leur a craqué dans les mains, ils n'ont plus aucun intérêt dans la vie, bonne idée nourrie en secret par chacun d'eux, ils se la dissimulent, de temps à autre ils sourient quand elle leur vient, puis se la communiquent simultanément, copier. Confection du bureau à double pupitre, s'adresse pour cela à un menuisier, Gorgu qui a entendu parler de leur invention, leur propose de le faire, rappeler le bahut, achat de registres et d'ustensiles, sandara cratoire, ils s'y mettent. Fin de l'épisode du parcours encyclopédique. Et c'est là que Flaubert avait imaginé ce deuxième volume, 11e et 12e chapitre, la copie, dans lequel les deux bonshommes devaient relire les livres lus et en retirer toutes les sottises. Il devait aussi composer le dictionnaire des idées reçues, celui que Flaubert avait mis en attente, et on passe cette fois au niveau des discours, une espèce d'encyclopédie au second degré, des styles, des idées chics, des idées reçues, des sottises de tous les pays, des choses extraordinaires, l'exaltation du bas, philosophie, religion, morale, et Flaubert avait déjà relu les notes de lecture, lui-même, en mettant en marche pour la copie. Un ami à lui, Laporte, recopie les citations qu'il faut recopier, et ce dossier que les deux grands hommes devaient constituer, qui aurait été une sorte de document contre la bêtise humaine, de document physique, matériel, fait de citations, où les citations deviennent des faits, où les citations deviennent des choses, eh bien, c'est ce que Flaubert était en train de composer quand il est mort. De cette copie et de cet 11e, 12e chapitre, nous avons un scénario, et j'aimerais terminer là-dessus. C'est encore une fois du scénario, comme le dernier texte que je viens de lire. On peut remarquer que les scénarios sont déjà de la prose, très sensible, très sentie. Chapitre 11, leur copie. Ils copièrent tout ce qui leur tomba sous la main. Longue énumération. Les notes des auteurs précédemment lus. Vieux papier acheté au poids à la manufacture de papier voisine. mais ils éprouvent le besoin de faire un classement. Alors ils recopient sur un grand registre de commerce. Plaisir qu'il y a dans l'acte matériel de recopier. Flaubert met ça dans un scénario, racontera qu'il y a un plaisir. Il faut penser que pour écrire ce livre, Flaubert a recopié 1500 volumes, des notes, et lui-même recopié lui-même ses propres textes, puisqu'il réécrivait jusqu'à 10 fois, 15 fois une page avant d'arriver à la prose finale. Spécimen de tous les styles, agricole, médical, théologique, classique, romantique, périphrase. Parallèle, crime des peuples, des rois, bienfait de la religion, crime de la religion. Beauté, faire l'histoire universelle en beauté. Dictionnaire des idées reçues, catalogue des idées chiques. Le manuscrit du clerc de Marescot, morceau poétique, annotation au bas des copies. C'est-à-dire que Flaubert imaginait un volume qui aurait reproduit aussi les copies et des annotations que les bonshommes portent. Il aurait fallu raconter qu'ils annotaient leurs propres copies. Le travail de Flaubert devenait le thème même de la fiction, l'action même des personnages. Mais souvent, ils sont embarrassés pour ranger le fait à sa place et ont des cas de conscience. Les difficultés augmentent à mesure qu'ils avancent dans leur travail. Ils le continuent cependant. Marescot a quitté Chavignol pour Le Havre, a fait des spéculations et est notaire à Paris. Mélie, entrée comme servante chez Bellejambe, l'a épousée. Bellejambe mort, elle se remarie à Gorgu et trône à l'auberge, etc. Chapitre 12, conclusion. Un jour, il trouve, et là encore c'est du scénario, hein. Un jour, il trouve, dans les vieux papiers de la manufacture, le brouillon d'une lettre de Faucorbeil à Monsieur le Préfet. Le Préfet lui avait demandé si Bouvard et Pécuchet n'étaient pas des fous dangereux. La lettre du docteur est un rapport confidentiel expliquant que ce sont deux imbéciles inoffensifs. En résumant toutes leurs actions et pensées, elle doit, pour le lecteur, être la critique du roman. Qu'allons-nous en faire? Pas de réflexion, copions. Il faut que la page s'emplisse, que le monument se complète. Égalité de tout, du bien et du mal, du beau et du laid, de l'insignifiant et du caractéristique, il n'y a de vrai que les phénomènes. Finir sur la vue des deux bons hommes, penchés sur leur pupitre et copiant. Voilà. Bon. On peut discuter encore si vous avez la patience, parce que je me rends compte que ça a été très long.
Est-ce que, à votre avis, Flaubert a voulu faire la critique de la science ou bien de l'absence de méthode de la part de Jean Poussin?
C'est vraiment une question difficile. Il dit quelque part, c'est de l'absence de méthode, hein, c'est-à-dire qu'il fait la critique de l'absence de méthode. Alors est-ce que Bouvard et Pécuchet sont des gens trop simples? Je ne crois pas que Flaubert critique, par exemple, l'autodidacte. C'est pas vraiment cela. Il utilise les deux personnages pour montrer un mauvais usage, en effet, de la science. C'est un usage d'application stricte. Un usage qui n'est pas critique. Au sens que quelqu'un qui chercherait, par exemple, dans les livres, les recettes sur les choses, et qui n'aurait pas cette distance de compréhension, et en effet, de l'absence de méthode. Mais ce faisant, au fond, Flaubert isole comme énigmatique la vraie science. Qu'est-ce que la vraie science? L'épreuve du doute, de la critique, etc. Et il le pose comme énigmatique. Et parallèlement, il ne critique pas les sciences en tant que telles, mais il montre qu'au fond, les sciences sont toujours livrées à des apories. Il y a une limite, toujours une limite, où la science touche, par exemple, à des questions théoriques fondamentales qu'elle doit résoudre. Alors, deux bons hommes comme eux qui s'appliquent au texte et qui s'arrêtent à ce moment-là, qui ne sont pas chimistes par exemple, c'est-à-dire qui ne vont pas faire la théorie qui va permettre de sortir de l'impasse. C'est comment avancent les sciences, par des théories qui butent, enfin plutôt qui dénouent une impossibilité constamment. Et les théories cherchent, comme disait l'épistémologue Popper, au fond ce que cherchent les théories, c'est à être prises en défaut. Parce que c'est là où elles sont prises en défaut que la théorie pourra évoluer. Eh bien, c'est ce mouvement-là des sciences que Bouvard et Pécuchet n'ont pas, ne connaissent pas. Mais ce que manifeste Flaubert, c'est que les sciences butent toujours sur un moment du fondamental, du théorique. Et puis Bouvard et Pécuchet veulent savoir, ils sont fabuleusement curieux.
Ils sont sympathiques, au fond.
Hein, alors, tout à fait. Ils sont inépuisables. Hein, ils y passent leur fortune. Ils s'y ruinent. Ils sont actifs, ils vont soigner les malades, ils soutiennent l'instituteur, ils ont une activité extraordinaire. Mais au fond, il colle trop au savoir. C'est-à-dire que des sciences ou des livres, ils voudraient immédiatement un savoir absolu. Par exemple, ils écrivent à Dumouchel pour avoir, qu'il leur envoie la meilleure histoire de France. Quelle est la meilleure histoire de France? Bon, c'est ce mouvement de questionnement, de relativité permanente des disciplines que Bouvard et Pécuchet, là, ils ne tiennent pas. Mais ils ne tiennent pas pourquoi? Parce qu'ils ont aussi un désir encyclopédique, c'est-à-dire qu'ils voudraient passer d'une l'une à l'autre et non pas s'enfermer dans l'une. Il y a aussi cette curiosité qui fait ils abandonnent l'une, mais c'est parce qu'une autre les attire. Alors, il y a là la question du classement des disciplines est intéressante, puisqu'on passe tout de même d'abord de la technologie appliquée, la terre, hein, l'agriculture, à un aspect plus théorique, qui serait la théorie de l'agriculture, et à partir de là, la chimie. On ne voit pas trop pourquoi, et la chimie amène à la médecine. La médecine amène à des réflexions sur la géologie, sur la constitution du monde. Et ensuite, après les sciences exactes, on passe aux sciences dites humaines, autour de l'histoire, de la littérature. Et au cœur du roman, il y a tout de même deux épisodes qui sont ceux du réel. Le politique et l'amour, côte à côte, hein, ce sont les deux chapitres centraux, ou la révolution de 48, en un seul chapitre, on passe de 48 à 51, c'est-à-dire révolution de 48, février, juin, et Second Empire. C'est tout à fait fort ici, le passage.
Au sujet du coup d'État du 2 décembre 1851, voilà une phrase que je trouve comique chez Flaubert. La fusillade sur les boulevards eut l'approbation de Chavignol. Pas de grâce aux vaincus, pas de pitié pour les victimes, dès qu'on se révolte, on est un assassin.
Ça, Chavignol est un réflexe comme ça de France moyenne.
Le réflexe, effectivement, de toute la province.
Et ça, c'est la force d'un roman comme celui-ci, c'est par des toutes petites vignettes, des toutes petites phrases comme ça, ça note une vérité profonde du moment et de cette histoire. Et donc après, on passe à philosophie, religion et pédagogie. On traverse donc vraiment l'encyclopédie, mais au sens des matières d'un dictionnaire, par exemple. Ce ne sont pas simplement les sciences. Au fond, le moment des sciences est très restreint. Alors, ce qui était étrange, c'est le tour de la copie, où là, les deux bonshommes, il y a des phrases du genre, ayant appris à reconnaître la bêtise, ils ne pouvaient plus la supporter. Et ils furent pris d'un étrange mal, c'est qu'ils reconnaissent la bêtise, ils ne peuvent plus la supporter. Mais Flaubert ne prétend pas qu'il suffit de reconnaître la bêtise pour ne pas être bête. Hein. Et il ne le prétend pas pour lui-même non plus, d'ailleurs. À aucun moment, ce texte ne prend une position ironique de dédain ni de mépris. Hein. Il y a des colères, il y a des colères contre la justice, il y a des colères contre la bêtise, par exemple. Il y a une scène où le curé vient voir l'instituteur pour l'acheter, pour l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, en le menaçant tout simplement de perdre son travail. Il y a une scène où là, Flaubert dénonce une sorte de corruption idéologique, corruption mentale très profonde. La phrase que vous avez citée là est extraordinairement violente, au fond. Alors ça, il y a de l'indignation. Mais il n'y a jamais véritablement de mépris hautain dans ce roman. C'est un critique américain, Kenneth Burke, qui disait « C'est une ironie, la vraie ironie, celle qui ne méprise pas, mais celle qui partage quelque chose avec l'ennemi, hein, qui se sent proche de l'ennemi. »